Je suis au Festival du film historique de Pessac et je viens de sortir de la projection de Gurs en avant-première. Gurs consacré à un camp d'internement dans le Béarn. Et j'ai l'un des co-auteurs avec moi, Monsieur Vidal, bonjour.
Bonjour.
Vous avez co-réalisé, vous étiez avec Antoine Laura. Et en fait, à la sortie de la projection, j'ai constaté que c'était un sujet encore très vivace, très douloureux, parce qu'il y avait un intervenant qui avait connu ça enfant. Est-ce que vous avez rencontré aussi des réactions aussi fortes, aussi émotionnelles, quand vous avez commencé à faire le travail d'investigation ?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'émotions autour du camp de Gurs. Il faut voir ce que ça représente. C'est plusieurs dizaines de milliers de gens qui ont été internés à Gurs. Hein, c'était la troisième ville du département de ce qu'on appelait à l'époque les Basses-Pyrénées, c'est-à-dire après Pau et Oloron. Ça a été donc, c'est un traumatisme terrible, traumatisme quantitatif et qualitatif, puisque les conditions de vie à Gurs ont été terribles et qu'il y a un cimetière où il y a environ 1100 personnes qui sont enterrées, qui sont mortes en quelques mois.
Est-ce qu'il y a encore un silence, une chape de plomb autour de ce qui s'est passé, ou est-ce que maintenant les gens arrivent à en parler sans trop d'omerta, sans trop de, disons, de difficultés ?
Alors, il y a le silence de l'indifférence. C'est peut-être même pire que ce qui existait avant. C'est-à-dire que les gens ne repèrent pas Gurs, ne savent pas où ça se trouve, ne savent pas de quoi il s'agit. Et il y a aussi le silence, bien sûr, de ceux qui ont vécu autour de Gurs et qui ne se sont pas toujours bien comportés. Je veux dire,
qui ne se sont pas impliqués.
Comment ?
Qui ne se sont pas impliqués pour aider les gens.
Qui sont, non seulement ne se sont pas impliqués pour aider les gens, il y en a eu qui l'ont fait, mais c'est une petite minorité. Mais il y a aussi ceux qui ont profité de la situation pour s'enrichir sur le dos des gens. Il y a les deux. Et bon, ça c'est très difficile à raconter parce que il y a peu de témoins qui veulent direct. Il n'y a plus de témoins directs parce qu'ils sont pour la plupart décédés. Et les témoins de la deuxième ou troisième génération ont du mal à en parler. C'est bien compréhensible. Je veux dire, vous savez qu'il y a eu beaucoup de marchés noirs. Il y avait un accueil qui a été très mauvais, surtout en direction des Juifs. Il y a eu même, m'a-t-on dit, mais ça reste à prouver, c'est toujours pareil. Par exemple, même la nourriture qui partait d'Oloron jusqu'au camp de Gurs, qui a été volée par ou détournée, en tous les cas, par des gens, entre guillemets. Et il y a eu peu de compassion, en général, à côté de ce camp, qui était quand même un camp immense, puisqu'il pouvait recevoir jusqu'à 10 000 personnes.
Et ce qu'on comprend à travers votre documentaire, c'est que, en fait, les Espagnols arrivaient avec beaucoup d'espoir, puisqu'ils arrivaient dans la République de la liberté, des droits de l'homme, et que l'accueil était à l'opposé de leurs attentes.
Absolument, mais ça, c'est... il y a des périodes très différentes. Mais pour ce qui concerne les Espagnols, je crois qu'il y a beaucoup de responsabilités de la République française. Hein, c'était quand même nos amis, c'était quand même nos alliés. Mais c'est pas spécifique à Gurs, hein. Ça, je suis pas historien, je suis journaliste, mais je me suis beaucoup intéressé à l'Espagne. Puisque dès leur arrivée, il y a eu les camps d'Argelès, il y a eu les camps de Rivesaltes, et il y a eu le camp de Gurs, où les conditions de vie étaient très dures. Mais les Espagnols étaient endurcis, c'était des gens solides. Ils avaient fait la guerre, hein, c'était les brigades nationales, c'était l'élite de la République espagnole, les brigades nationales, les aviateurs et l'armée basque. Donc ils se sont organisés, ils ont lutté quelque part moralement, malgré les privations et la dureté du camp, ils s'en sont mieux tirés, je crois, de ce qui est arrivé ensuite.
Ils avaient déjà connu les exactions du début du franquisme.
Absolument. Ils avaient connu une guerre civile effroyable. Ils ont vécu, je crois, leur passage à Gurs comme un moment terrible, mais dans l'espoir quand même d'une revanche, de retrouver quelque part, de repartir pour la lutte et pour libérer leur territoire du franquisme. Donc ils se préparaient physiquement, intellectuellement. Il y avait le frère du colonel Fabien, vous avez peut-être entendu parler du colonel Fabien, qui était incarné à Gurs et qui disait que c'était le plus grand centre culturel de France, Gurs. Parce qu'il y avait des gens qui donnaient des cours, il y avait de langues, il y avait des gens qui faisaient de la peinture, de la sculpture, des cours théoriques de politique. Enfin, tout était organisé. Tout ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pénurie, ni quoi, ni rien. Hein, je veux dire, au contraire. Et les conditions d'internement étaient terribles. Mais il y avait une volonté chez les Espagnols qu'il n'y a pas eu par la suite.
Oui, justement, ce qui est marquant dans le documentaire, Guyo, c'est un silence assourdissant, c'est que c'est ponctué par des dessins d'ailleurs de grande qualité. Et on constate qu'il y avait une création, qu'il y avait en fait un art qui était conservé, qui était sans doute aussi une sorte d'exutoire.
C'est plus qu'un exutoire, je crois qu'il y a un personnage qui dit que c'était une condition de survie. Hein, voyez, elle dit Juliette Mince, qui est elle-même un grand écrivain, elle dit pour s'en tirer, il fallait avoir du courage, il fallait avoir de l'espoir, souvent vain d'ailleurs, et puis cette capacité de créer. Hein, la culture, on va dire. Et pour, puisque vous êtes suisse, quelque chose qui vous intéresse au premier chef, c'est qu'il y a eu quelqu'un qu'on a appelé l'ange de Gurs, qui s'appelle Elisabeth Kessler, excusez-moi si je le dis pas bien, qui était infirmière, qui s'est enfermée dans le camp de Gurs. Hein. C'est une femme qui est exceptionnelle.
Et
qui
a recueilli. Secours suisse protestant.
Voilà, secours suisse protestant, voilà. Mmh. Et qui a recueilli toute, une grande partie des dessins qui ont été faits, notamment des dessins d'enfants, dans le camp de Gurs.
Ça rappelle un peu ce qui s'est passé du côté de Stettin, dans ce qui est à l'époque, maintenant c'est la Tchéquie, où les dessins d'enfants étaient cachés sous terre pour qu'il y ait une mémoire, qu'on puisse les retrouver à la libération.
Peut-être, oui, je ne connais pas l'anecdote, mais sans doute, oui, oui, il fallait les retrouver. D'abord, il y avait beaucoup de grands intellectuels, hein, et beaucoup de grands écrivains, beaucoup de grands peintres qui étaient enfermés dans le camp. Il y a des gens aussi qui le sont devenus, il y a des gens... C'était une nécessité, je veux dire, effectivement, impérieuse et intime. Hein, il n'y avait pas de créer à ce moment-là, effectivement. Et je crois que Elisabeth Kessler a très bien compris ça. Elle a fait des ateliers de dessin, s'est beaucoup occupée des enfants. Et elle a tout gardé. Il y a une fondation à Zurich, Elisabeth Kessler. Je crois que ses dessins sont partis maintenant à Wittberg, au Danemark, où elle les a confiés.
Ce qui est troublant dans le film, c'est qu'on est sous la ligne de démarcation, en France, zone libre, et on constate quand même qu'il y a une participation active de la part du gouvernement français.
Ah, bien sûr, les Allemands ne sont jamais venus dans le camp de Gurs, sauf une demi-journée, 4 ou 5,
pour
voir, pour vaguement superviser. Donc c'est la responsabilité entière de l'administration française, voilà. Du début jusqu'à la fin. Après, il ne faut pas non plus, je veux dire, caricaturer. Moi, je suis journaliste, je suis pas historien, mais je suis toujours frappé de voir que les historiens disent les choses dans la nuance, et il faut le dire dans la nuance. C'est-à-dire, les gardiens de Gurs n'étaient pas des tortionnaires. Ceux qui étaient des tortionnaires, c'était les camions étaient remplis pour partir dans les camps. Là, arrivaient des gardes mobiles, des gardes noirs, comme disent les témoins. Et comme c'était tellement déchirant et tellement révoltant, alors c'est eux qui organisaient le départ de ces convois de la mort, quelque part.
Mais parce qu'ils savaient, ils savaient. De l'Est.
Oui, voilà, en s'arrêtant à Drancy, bien sûr. Hein, voilà. Ils savaient qu'ils partaient. Ils le savaient, donc ça a été ça déchirant, terrible. Et les témoins espagnols en parlent aussi. J'en ai rencontré qui étaient encore là, qui racontent que quand les camions partaient, c'était la nuit en général, où les enfants restaient. Sur la route, ils voyaient leur père et leur mère pour la dernière fois. Voilà. Ils partaient d'ailleurs en chantant des chants yiddish ou des chants juifs. Je trouve que c'est terrible quand même. Vous voyez, que ça ne soit pas connu. Moi personnellement, ça me touche beaucoup. Excusez-moi. Je n'ai pas d'arrière-pensée politique. Mais ce que je dis, c'est souvent, c'est l'homme est un loup pour l'homme. Quoi, je veux dire, il s'est fait des choses qui sont innommables et qu'on a voulu ignorer pendant des années. Et qui ne sont pas connus du grand public. C'est connu peut-être de certaines personnes, je ne mets pas en cause, c'est de plus en plus connu. Mais c'est pas connu du grand public, et bon, c'est quand même. On construit sur du sable, je veux dire, il faut quand même avoir la mémoire de ça, ne serait-ce que pour respect, par respect par rapport à tous les gens qui ont souffert et qui sont morts.
Donc justement, votre travail, M. Vidal, c'est important parce que c'est à la fois donner une vie à ce qui a été occulté, voire été totalement nié pendant des décennies, d'une part, puis d'autre part, c'est une résonance avec ce qui se passe actuellement.
Oui, je ne peux pas nier qu'il y ait une résonance. Mais bon, comparaison n'est pas raison non plus. Hein, je crois que dans les circonstances, on peut être sensibilisé. On devrait tirer des leçons de ce qui s'est passé dans ces camps-là. Et on ne l'a pas fait assez, à mon sens. Mais on ne peut pas comparer la situation actuelle avec ce qui s'est passé avant. En tout cas, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de toucher les gens. et de montrer ce que l'homme est capable de faire à son prochain, et de dire que ça, c'est pas acceptable. Et ce qui est encore moins acceptable, c'est de ne pas l'enseigner, c'est de le nier, de voir l'oublier, le cacher.
Alors là, le parterre de public était essentiellement d'un âge certain, donc il y avait des gens qui avaient connu cette période, mais j'imagine que vous avez aussi affaire à des lycéens ou des collégiens à qui vous allez présenter ce documentaire, avec qui vous échangez.
Absolument, oui. Pas assez souvent à mon goût, mais ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Et j'ai été frappé de voir la qualité d'écoute et la sensibilité, et souvent des réactions très sensées de la part des jeunes. Peut-être plus que de la part des
adultes, plus pertinents.
Voilà, plus pertinents, peut-être plus remués aussi, et sachant aussi en tirer les leçons pour leur propre vie. Voilà. C'est ça l'objectif du film. Vous voyez. Ce n'est pas un film qui est là pour démontrer ou pour pointer du doigt X ou Y. Non, c'est pour sensibiliser, si vous voulez.
Alors, ce film, il était réalisé avec la collaboration de France 3 Nouvelle-Aquitaine.
Oui.
Et il a déjà été diffusé sur cette chaîne. Il va être diffusé ailleurs. Vous pouvez nous rappeler où?
Alors, il va être diffusé d'abord ce soir, dans le cadre donc de la nuit du documentaire sur France 3. Il va être diffusé sur France 3 Occitanie. Il a été diffusé aussi sur France 3 Hauts-de-France. Et je pense qu'il va tourner dans tous les France 3. Et en plus, il y a des diffusions ponctuelles. Par exemple, là, je veux dire, à court terme, à Pau, à Naï, qui est utilisé à côté de Pau, deux à Pau, une à Naï.
Et sur France 5 aussi, il me semble.
Ah, France 5, je ne sais pas. Vous m'apprenez quelque chose. J'aimerais bien. Voilà.
Et quels sont vos projets? Là, vous allez repartir chez vous à Pau, et sinon, vous avez des projets de cet ordre?
Oui, mais j'en parle pas trop. Non, mais je voudrais aller un peu plus loin dans l'étude de cette période.
Parce que j'imagine que vous aviez beaucoup de matière que vous avez dû laisser, puisque là, vous étiez quand même limité à un certain format au niveau temporel.
Oui, mais vous savez, c'est la règle du jeu. C'est 52 minutes, 52 minutes, c'est comme ça. Je veux dire, c'est une grande chance d'avoir eu cette opportunité. Il y a eu beaucoup de difficultés pour le réaliser du point de vue technique. Je veux dire, du point de vue matériel, non pas technique, parce que je suis très bien entendu avec Antoine Laura, qui a fait un travail formidable de réalisateur. Mais après, on n'a pas eu les moyens qu'on voulait, quoi. On a eu des moyens très en dessous de ce qu'on voulait, malgré l'investissement de France 3, c'est pas la question.
Par contre, j'imagine que l'historien avec lequel vous travaillez, Larry, vous avez eu accès à beaucoup d'archives.
Bah, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis très longtemps. Il nous a beaucoup aidé. Oui, il nous a donné la clé de beaucoup d'archives et de la compréhension des faits aussi.
D'accord, je vous remercie. On attend avec impatience le prochain travail que vous allez nous proposer. Merci.
Merci à vous. Voilà. À bientôt.
À bientôt.
Merci.